Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question de deux aspects très opposés de la foi chrétienne. La haute mystique de Sainte Gertrude la Grande, cette grande moniale bénédictine d'Elfta qui est décédée en 1302. Et en même temps, nous parlerons de ces jésuites qui ont été assassinés au Salvador un 16 novembre, il y a à peine 6 ans, en 1989, en compagnie de 2 femmes qui les assistaient et qui sont considérées comme des martyrs de cette Église qui lutte pour les pauvres dans le plus concret de l'incarnation de l'Église. Alors, d'une part, la haute mystique, de l'autre part, la lutte pour la justice. Je commence donc avec Sainte Gertrude bénédictine. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Sainte Gertrude, qui est à la source, peut-on dire, d'un certain aspect de la dévotion au Sacré-Cœur, est une immense mystique. C'est Brémond qui la considérait comme quelqu'un d'absolument exceptionnel et peut-être la plus grande des mystiques pour ce qui était de la qualité des textes. Je n'irai pas jusque-là pour ma part, je m'excuse, qui suis-je pour m'opposer à Brémond. C'est une question personnelle, si peu valable soit-elle. J'aime bien cette Gertrude, je la lis depuis l'âge de 16-17 ans. Et j'approche de 70, je l'ai toujours bien aimé, mais c'est pas à ce point-là. Hein. C'est un grand nom, en tous les cas, de la mystique allemande médiévale. C'est un des grands noms, comme je vous dis, de la mystique chrétienne et particulièrement de la mystique catholique. Et chose étonnante, ça nous arrive souvent dans la vie des saints, on se rend compte qu'elle n'avait pas 5 ans. Quand elle a été offerte par ses parents en 1261 au monastère d'Elfta, près de Eisleben en Saxe, la Saxe qui est dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Ce n'était pas si rare que ça, hein? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'y reviens pas. D'ailleurs, un siècle avant Saint-Benoît, nous vous parlons ici de la paroisse Saint-Benoît, sur la rue Fleury, non loin du métro Sauvé, c'est ici que nous sommes installés, Radio Ville-Marie. Eh bien, un siècle avant Saint-Benoît, on date sa règle, la règle de Saint-Benoît, qui est à la source de la vie bénédictine, de la vie des cisterciens, des trappistes, et de bien d'autres vies monastiques. Eh bien, sa règle date de 540. Alors, un siècle avant lui, il y avait un évêque nourri dans un monastère, dit-on, dès sa petite enfance, à Pisino, comme on disait. Tellement que une pèlerine, comme on disait, qui s'appelait Égérie, quel nom, a rencontré en Orient, vers 415, cet évêque, qui, dès le début de sa vie, bébé en somme, avait été donné à un monastère. La règle bénédictine, d'ailleurs, si vous la lisez bien, certains d'entre vous, regardez bien au chapitre 59. Benoît prévoit que des parents pourront offrir aux moines leur jeune enfant. Et dans le texte latin, il est bien dit « puer minori etate », un enfant d'âge mineur. Pour ce qui est de Gertrude, c'était une enfant fort intelligente. Elle a trouvé dans le cloître le climat qui lui convenait. Je me souviens même, je m'excuse de parler moi-même, il y a des gens, ça les fatigue. À 11 ans, la première fois que je suis allé à Saint-Benoît-du-Lac, je me sentais comme chez moi. Et on avait eu la gentillesse de m'introduire à la récréation du noviciat. Et j'avais senti que c'était ma place pour toujours. C'était une erreur. Hein? Et quand j'ai amené mon petit-fils il y a quelques jours à Saint-Benoît-du-Lac, j'ai eu dans son regard un peu la même chose, j'ai l'impression, il était très heureux. Pour Sainte-Gertrude, c'était tout d'abord le Fils divin qui l'a ébloui. La Sainte Liturgie, qui est si riche, si pacifiante dans les monastères, où on peut dire que nous, hommes et femmes mortels, nous disons à Dieu des paroles divines et nous écoutons notre Sauveur dans le silence. L'Office divin, comme la très sainte liturgie, la messe, où on entend le cœur monastique, les moines ou les moniales, qui représentent l'Église entière, l'humanité, on les écoute un peu comme si c'était le cœur de la tragédie grecque hein, qui symbolisait dans les grandes pièces grecques tous les hommes. J'ai vu de ces tragédies grecques en Grèce, dans les grands théâtres anciens en ruines mais qui servent toujours. Et je vous avoue que c'est saisissant. Le cœur dans la tragédie grecque. Le Fils divin, comme la messe, la sainte liturgie, où on a l'impression que la nature elle-même est magnifiée et maîtrisée. On voit là de splendides fleurs, de beaux tapis, des statues magnifiques, les cierges superbes allumés, les ornements toujours bien taillés, les aubes, grandes robes blanches, les aubes bien mises. Tout est impeccable. Tout est maîtrisé, l'architecture, les nappes sur l'autel, tout est dans la beauté et l'encens. Et tout ça lance vers le ciel comme des cris, on dirait, des cris d'une poésie qui est farouche. C'est celle des psaumes et celle des textes de la messe. C'est une poésie farouche, c'est une poésie qui est tendre aussi. Moi, j'ai toujours été très saisi par la liturgie. Dès ma plus tendre enfance, à 6-7 ans, quand je me suis mis à servir la messe. Et pourtant, c'était pas drôle, ces messes. Elles étaient en latin. Mais dans nos gros missels d'enfants, on pouvait lire les traductions et on était éblouis. Et après la messe, nous étions éblouis par les oraisons qu'on récitait pendant l'action de grâce. Des oraisons de Saint Bonaventure, vous vous souvenez? De Saint Thomas d'Aquin. Et à 8, 9, 10 ans, notre esprit bouillonnait de joie en lisant ça. Pour notre petite Sainte Gertrude, qui était une petite religieuse en herbe, la Sainte Liturgie, c'était un rôle pour elle, un rôle à jouer, dans une suite presque interminable de cérémonies, à exécuter avec précision et piété. C'est bien ça. Il y avait la formation de la femme lettrée aussi dans ce monastère très réputé. Faut dire que les monastères allemands, dès cette époque, au XIIIe siècle, aimaient la culture assez poussée pour les femmes. D'ailleurs, au Xe siècle, on connaît l'histoire de la moniale Roswitha, qui écrivait de petites pièces de théâtre pour amuser ses sœurs. Paraît-il qu'elles étaient très bonnes, ces petites pièces. Et au XIe siècle, au siècle suivant, une abbesse de Saint-Odile en Alsace, donc entre la France et l'Allemagne, elle a composé, sous le titre de « Un jardin des délices », quelque chose qui a eu un très beau succès. Encore au siècle suivant, au XIIe siècle, Saint-Hildegarde, la fameuse Saint-Hildegarde, a publié une œuvre apocalyptique qui dénotait des connaissances plutôt très étendues. Or, notre Sainte Gertrude, elle a mordu avec un tel appétit aux études profanes qu'elle devait plus tard se reprocher quand elle s'est convertie, vous savez que les moniales à l'intérieur, comme je vous ai parlé du cardinal Léger et, entre guillemets, de sa conversion. Il était un bon évêque, mais il s'est converti aux pauvres, il s'est converti, il le dit lui-même, hein. Je ne veux pas en aucune façon attaquer le début de la vie du cardinal Léger en disant des choses comme ça. Or, lors de sa conversion, notre sainte Gertrude se reprochait de venir du pays lointain de la dissemblance et d'avoir été une lettrée plus qu'une théologienne. Nous revenons donc à sainte Gertrude qui fait des études très sérieuses dans son monastère et au moment de sa conversion, elle se reproche de s'être livrée peut-être à trop d'études et puis d'avoir été une lettrée plutôt qu'une théologienne. Alors, elle essaie de changer de vie. Il faut dire qu'il y avait dans ce monastère des dominicains. C'était un monastère de bénédictines. Il y avait des dominicains instruits qui veillaient à la direction spirituelle. Et dans ce milieu, plutôt élitiste dans un certain sens, comme le sont certains monastères aux yeux de la masse des gens qui ne savent à peu près ni lire ni écrire à cette époque, hein, eh bien dans ce milieu où le temps se passait plutôt agréablement à l'œuvre de Dieu, comme on dit, c'est l'expression monastique, ça, l'œuvre de Dieu, opus Dei, comme disent les disciples de Monseigneur Balaguer. Alors, l'office divin, les travaux intellectuels de toutes sortes, les travaux manuels aussi. C'est une vie quand même très exigeante que la vie monastique. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une vie de repos. Mais notre Gertrude, elle se formait sans inquiétude religieuse. Je demandais si c'était de la tiédeur. Elle a déclaré qu'elle se souciait de son âme comme de l'intérieur de ses pieds, très sévère sur elle-même. Elle disait qu'elle vivait telle une païenne parmi des païens, ce qui est une exagération évidente. La preuve que si son entourage avait été plutôt notoirement païen, si ses sœurs avaient été comme des païennes et les aumôniers comme des païens, ben certainement que Mechtilde de Magdebourg, la grande Mechtilde de Magdebourg, qui a vécu de 1207 à 1282, juste au siècle où elle-même, Gertrude, était dans ce monastère, ben elle serait pas venue à Elfta, cette abbaye, en 1270, elle qui était si désireuse de contemplation et de paix. Or, sainte Gertrude a conté comment le Christ l'avait convertie. Voici ce texte, je vous le lis. C'est très beau. Que mon âme vous bénisse, Seigneur mon Dieu, mon Créateur. Que mon âme vous bénisse, et que mon être, le plus intime, confesse les miséricordes dont votre bonté sans mesure m'a entouré avec une telle gratuité. Ô mon très doux ami, je rends grâce autant que je le puis à votre immense miséricorde. Avec elle, je loue et je glorifie votre patience. J'ai vécu dans une folie si aveugle que j'aurais fait sans remords en pensée, parole et action toutes mes volontés, partout où c'était possible si vous ne m'aviez prévenu par un dégoût connaturel du mal et un plaisir du bien. Comme si j'avais été une païenne parmi des païens. Et pourtant, vous m'aviez choisi, dès l'enfance, dès ma cinquième année, pour vous être présenté parmi vos amis les plus dévoués. Par la multitude, vous m'avez exalté par la multitude de vos bienfaits. Un certain trouble dont mon cœur fut si ébranlé d'ailleurs, que toute légèreté juvénile commença à me paraître insipide. Et elle ajoute qu'en la 26e année de mon âge, en cette heure désirable de l'après-complie, vers le début du crépuscule, vous, la vérité, mon Dieu, plus serein que toute lumière, mais plus intérieur que tout secret, vous aviez résolu, écoutez bien ça, c'est très beau, vous aviez résolu de diluer la densité de mes ténèbres, commençant bellement et doucement pour calmer ce trouble qu'un mois auparavant, vous aviez suscité en mon cœur. Par ce trouble, je pense Vous aviez essayé de détruire ma vanité et ma curiosité. Hélas, je portais alors en vain le nom et l'habit de la religion, mais cela vous servait pour trouver le moyen de me montrer mon salut. Et à cette heure donc, comme je me tenais au milieu du dortoir et que je redressais ma tête inclinée pour saluer au passage une ancienne, selon le cérémonial de l'ordre, je vis un jeune homme aimable et délicat, âgé d'environ 16 ans, réalisant l'idéal de beauté qui put charmer alors les yeux extérieurs de ma jeunesse. Or, on peut se demander qui était ce jeune homme de 16 ans. Était-ce un ange? Vous verrez, ce n'était pas un ange. Gertrude ajoute, c'est là qu'elle explique, « Il me dit d'un air doux et bénin, « Bientôt viendra ton salut. Pourquoi te consumer de chagrin? » Et comme il parlait, j'avais beau me savoir matériellement dans le dortoir, il me semblait que j'étais au cœur. En ce coin où j'avais accoutumé de faire une oraison si tiède, et c'est là que j'entendis la suite des paroles, et c'est là qu'on voit que c'est Jésus, « Je te sauverai et te libérerai, n'aie pas peur. » J'entendis, puis je vis une main tendre et délicate me serrer la main, comme pour appuyer ses paroles par un gage, et il ajouta, « Reviens à moi, et je t'enivrerai du torrent de ma volupté divine. » Je vous fais grâce de tout le restant du texte, c'est très 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 long, je vous ai sorti ce qu'il y a, à mon sens, de plus valable, parce que il est difficile de rendre la qualité du latin d'abord de Gertrude. Elle a des mots abstraits, elle établit des symétries, des cadences, des rimes, et c'est aussi une prose qui tend à la poésie. Tout ça scintille d'allusions à l'écriture sainte ou à la liturgie. Mais dans tout cela, on peut dire qu'il y a une rectitude parfaite, c'est fin et juste. Et dès lors, la vie de Gertrude a été un progrès en Dieu, vers Dieu. Elle a entendu cet appel et elle y répond. Alors elle laisse ses curiosités profanes pour vivre de l'Écriture sainte, des pères de l'Église, comme les pères de l'Église Saint Bernard, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand. Puis elle vit de la liturgie, les textes de la liturgie que vous avez en main dans votre prière en Église, savourez-les quand vous les avez le dimanche. Analysez au moins 10 lignes par dimanche, vous verrez comme c'est beau, c'est grandiose. Le Seigneur, d'ailleurs, lui a accordé la grâce terrible des stigmates. Les stigmates invisibles, comme il l'accordait à bien des saints et des saintes, semble-t-il. Elle éprouvait aussi une blessure au cœur. Elle a mis tout bonnement son talent au service de ses sœurs bénédictines et des pèlerins au parloir. Elle rédigeait aussi des extraits de l'Écriture sainte pour rendre service. Parce qu'il n'y avait pas de livre dans ce temps-là, hein. Elle n'a pas eu d'autre charge que celle de sous-chantre, prétend-on. Mais elle était souvent malade. Oui, vous qui m'écoutez, qui êtes malade, elle était souvent malade et elle s'est trouvée ainsi contrainte à apprendre quoi? Qu'est-ce qu'enseigne la maladie? Selon elle, la maladie lui enseignait la patience, l'humilité, la condescendance. En un mot, je pourrais dire que ça lui enseignait la charité. La charité sous ses formes les plus modestes et peut-être par là même les plus authentiques. Notre Gertrude, qui était une espèce de lettrée orgueilleuse, comme on en trouve tellement dans les lancements de livres, eh bien, cette dilettante était devenue une écolière, en somme, à l'école de Jésus. Et elle est morte probablement un 17 novembre, vers 1302, à 46 ans. L'œuvre de Gertrude, de Sainte Gertrude, est une œuvre écrite, comprend un recueil de 5 livres de récits. Ce sont des effusions sur la vie intérieure. Et de ces 5 livres, le second seul, peut-on dire, est de Gertrude. C'est dire qu'il faut lire les autres avec des réserves. Faites attention, lisez le second de ces 5 livres. Si vous lisez Gertrude, Sainte Gertrude, la Grande. Ces livres-là, de toute façon, nous mettent dans la tonalité du milieu. Si on peut dire, ce milieu n'avait pas toujours la discrétion généralement bien nette de Sainte Gertrude, qui, elle, est un bon auteur. Sous prétexte d'édifier, on ne reculait pas devant la mièvrerie puis le mauvais goût. C'est plutôt désagréable. De Gertrude, nous avons aussi cette exercitia, des méditations sur les grandes heures de la vie chrétienne et monastique, qui prennent instinctivement la forme liturgique. Alors, guidée par les textes sacrés, Sainte Gertrude, maladive, sait trouver des accents solides. Ainsi, pour recevoir le joug de la Sainte Règle, elle dit « Recevez-moi, Père Saint, en votre très clémente paternité, afin que dans le stade de cette sainte profession où j'ai commencé à courir pour votre amour, je vous reçoive en prix et héritage éternel. Recevez-moi, Jésus très aimant, en votre très douce fraternité, afin que vous portiez avec moi tout le poids du jour et de la chaleur, et que je vous aie avec moi pour réconfort dans tout mon labeur, et pour compagnon, guide et associé dans mon chemin. Recevez-moi, Esprit Saint, amour Dieu, en votre très bonne miséricorde et charité, afin que je vous aie comme maître et précepteur de ma vie entière, et le plus tendre ami de mon cœur. » Et dans l'oraison qui termine le deuxième exercice, celui que je vous recommande, elle demande la patience forte qui permet de courir avec virilité, dit-elle. Oui, je m'excuse pour les féministes. Et même note humaine est touchante dans ce passage du sixième exercice où elle dit « Soyez bénis par tous les labeurs de votre humanité, les douleurs, les sueurs, ainsi vous avez sanctifié toutes mes suffocations, mes dépressions et mes langueurs. Soyez bénis par l'expérience de ma misère. » Jésus a expérimenté notre misère. Hein? « Ainsi, vous êtes devenu le Père de grande miséricorde et le Dieu d'une infinie clémence. » Et il y a de très, très belles choses sur la Sainte Face. Sainte Gertrude, dans le sixième livre de ses exercices, écrit une petite phrase en une ligne et demie qui est très belle. « Soyez bénis, Jésus, par l'amertume de votre précieuse mort, que pour moi vous infligea votre amour courageux. » C'est beau. On pourrait dire que ça a été écrit aujourd'hui, ça. « Soyez bénis par l'amertume de votre précieuse mort, que pour moi vous infligea votre amour courageux. » Elle écrit d'ailleurs, un peu plus loin, une dizaine de pages plus loin, « Mon cœur s'est fixé où le veut Jésus, ma vie. Ô Jésus, l'aimé des aimés, vous êtes la vie constante de mon âme. C'est vers vous que languit mon âme. C'est de vous seul qu'a soif mon cœur en moi. Votre délicieuse béatitude, votre admirable beauté, votre honorable image, je vous ai dit qu'il était question de la Sainte Face, hein? Votre honorable image, votre aimable portrait, m'ont fait une blessure très douce, qui me rend pénible la lumière de ce monde. L'ennui me prend de moi-même. Que c'est beau, ça, hein? Pensez-y deux secondes. L'ennui me prend de moi-même. C'est vrai que nous sommes ennuyants, tout seuls, sans lui, sans Dieu, sans l'amour qui pénètre en nous. L'ennui me prend de moi-même. Jusque à quand, ô mon aimé, attendrai-je l'heure où je jouirai de vous et la contemplation de votre face digne d'amour? De vous, mon âme a soif. Le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, sans vous ne sont pour moi qu'un hiver glacé. Votre aimable visage est pour moi la seule consolation, le réconfort du printemps. Ô amour, amour, quand me ferez-vous cette grâce de réduire mon corps en poussière, afin que mon âme reflue en vous, Dieu, sa vivante origine? Ô amour, amour, tenez-moi que je ne sois pas englouti par la tempête, L'agréable son d'une eau vive qui jaillit de sa source même a saisi mon cœur fortement. À jamais nul lyre plus doucement ne résonna. C'est du... Amour, amour, garde-toi de briser jamais le lien dont tu m'enchaînes, sinon pour me présenter à l'unique aimé de mon cœur, en son sein très doux, par ce doux arôme de fruits vital que vous êtes en vous-même, mon ami préféré. Vous m'avez ravi l'esprit, si bien que ma chair pourrie en peste comme fumier, aussi jamais ne cesse mes soupirs vers vous. Donc c'est tellement beau, mais je saute par-dessus. En somme, tous les grands thèmes lyriques des poètes, à travers les siècles, ils sont là. La nature, l'amour, la mort. Mais comme pour Sainte Gertrude, l'aimer, c'est Dieu, il en résulte, on peut dire, un renversement des valeurs habituelles. Hein. La mort, bien, elle devient aimable, parce qu'elle introduit à l'aimer. Et la nature, elle, elle est insipide qui ne contient pas l'aimer. Quand on croit et qu'on regarde un coucher de soleil, il y a un souffle qui s'empare de notre cœur. Oh, je me souviens ça sur la Méditerranée en Israël. J'étais assis au bord de l'eau, le soir, seul, sur un petit promontoire de sable. Mais j'ai regardé lentement le soleil qui descendait dans la mer. Et j'avais l'impression que tout chantait la gloire de Dieu. J'avais l'impression que toute la nature criait son amour pour Dieu, mais la nature n'a pas d'amour. Son amour passe par notre cœur. C'était extraordinaire. La tristesse chez l'âme mystique, la tristesse de passer devient ici une tristesse de ne point passer assez vite. La vie est courte. La vie n'est pas encore assez courte. En somme, la nostalgie de l'extase ressentie en présence de Dieu qui est l'aimé. Cette extase qui passe trop vite. Elle la chante, Sainte Gertrude, en strophes qui sont pas monotones, mais qui sont toujours ouvertes à une espèce d'orchestration moderne. Et voici pour l'heure de la mort ce qu'elle écrit. Douce bonté de Dieu, ô chère libéralité de Dieu, à tous tu ouvres ton sein. Tu es le refuge des pauvres. Ô bonté, que me conseilles-tu? Ou fuir devant la froidure, car je ne puis plus supporter la rigueur de l'hiver. La tiédeur de mon âme a fini en gel qui a durci tous les sillons de mon cœur. Oh, couvre-moi de tes ailes, en cachant ma confusion d'être nu, afin que je me réchauffe sous tes plumes et que pour l'éternité j'espère sous ton peignage. C'est de la poésie, hein, de la poésie mystique. Je suis sûr que quelques-uns d'entre vous sont un peu surpris que je lise ça, mais c'est très beau, hein? Car la spiritualité qui est authentiquement celle de Sainte Gertrude, elle est simple. Elle pourrait avoir pour épigraphe un mot du livre de Josué, qui pourtant n'est pas spécifiquement tourné vers les réalités spirituelles. Voici le texte de Josué. « Vous aurez bien soin, car il y va de votre vie d'aimer Yahvé, votre Dieu. » Et c'est ce qu'elle vit. Elle aime. Ce Dieu, elle le trouve dans la liturgie que le Christ vécut. Elle s'écrie, « Il ne me suffit pas de savoir seulement vous épeler. Je désire, je convoite et je souhaite mille fois de vous connaître même à fond, de vous chérir vigoureusement, de vous aimer non seulement avec douceur, mais avec sagesse, de m'attacher à vous inséparablement afin que je commence à vivre non plus en moi, mais en vous seul. Oh, maintenant, ô amour, faites que je vous connaisse en vérité et établissez-vous dans mon âme un trône en toute sainteté. » La piété de Sainte Gertrude s'est portée de préférence sur l'incarnation, sur l'humanité du Christ, sur le Sacré-Cœur. Elle aima l'Eucharistie aussi, elle a conseillé la communion fréquente, c'était exceptionnel à son époque. L'Église n'a pas approuvé formellement ces révélations toutefois. L'Église n'approuve pas n'importe quelle révélation, on a pu le voir récemment avec Vasula Raiden. Pendant sa vie, Sainte Gertrude a exercé une influence limitée, mais réelle. Mais ce furent deux siècles d'oubli, ou presque. Il y a un fait significatif, ses œuvres ne nous sont parvenues que par un petit nombre de manuscrits. C'est le fameux chartreux Lansperge, dont je vous parlerai un jour, qui les a lancés en 1536. Et le fameux abbé bénédictin que j'aime beaucoup, Louis de Blois, mort en 1566, c'est lui qui a contribué à faire connaître la piété de Sainte Gertrude. Et dès lors, les œuvres de cette grande moniale allemande se sont répandues en France, en Espagne, en Italie, puis dans les pays de langue allemande. C'est Clément XII qui a prescrit son culte à l'Église universelle en 1738, le 15 novembre. En 1932, elle a eu sa fête déplacée au 16 novembre, donc aujourd'hui. À partir de l'époque romantique, la gloire de Gertrude semble être allée en grandissant, favorisée par le développement du culte du Sacré-Cœur. Puis il y a eu des éditions dès la fin du siècle dernier, des traductions, faites par les moines de l'abbaye de Solesmes, l'abbaye mère de Saint-Benoît-du-Lac. Il y a eu des textes de Sainte Gertrude aussi, qui ont été livrés au public, et la vogue de la liturgie aussi. La vogue de la mystique a permis à Sainte Gertrude de percer. Ce qu'il pouvait y avoir de mièvre un peu dans certains textes a pu plaire, ça a plu, c'est regrettable. Ce qui compte, c'est les beaux textes de Sainte Gertrude. C'est une sainte qui a bénéficié quand même d'une propagande populaire. Je vous signale qu'aujourd'hui aussi, c'est la fête de Sainte Marguerite d'Écosse, dont je vous parlerai l'an prochain, mais je voulais vous en dire un mot. C'était une princesse anglaise qui était exilée. Elle était née en Hongrie vers l'an 1046. Puis en 1070, elle a épousé le roi d'Écosse. Elle est donc devenue écossaise, cette anglaise et hongroise d'origine. Le roi d'Écosse, Malcolm III. Elle lui a donné 8 enfants. Mais écoutez bien ça, c'est intéressant. Par sa culture, elle avait une grande culture, cette Marguerite d'Écosse. Elle avait un grand sens politique. Et surtout, elle avait une grande charité, une charité rayonnante. Et Sainte Marguerite d'Écosse a exercé une influence profonde sur son mari, le roi d'Écosse, Malcolm III. Elle a contribué au renouveau religieux de son peuple d'Écosse. Et les deux époux sont morts à quelques jours de distance en 1093. Ça arrive assez souvent, n'est-ce pas, que des époux comme ça qui s'aiment profondément meurent à quelques jours de distance. Et je passe maintenant à des hommes qui n'ont pas eu d'épouse, des jésuites merveilleux, au nombre de 6 qui ont été tués de façon sauvage au Salvador le 16 novembre 1989. L'assassinat de ces 6 jésuites et de 2 femmes a eu lieu donc le jeudi, un jeudi, oui, 16 novembre, vers 2 heures du matin. Averti par le provincial des jésuites, l'archevêque de San Salvador s'est rendu immédiatement sur les lieux avec 2 membres du bureau de tutelle juridique de l'archevêché. Ils ont tout de suite demandé à un juge d'intervenir pour ouvrir une enquête et exiger une autopsie pour chacune des personnes assassinées, 8 personnes. Un rapport de 40 pages présente les résultats de l'enquête. Alors, le rapport contient des précisions horribles, des précisions insupportables sur la façon dont ces hommes, ces femmes ont été assassinés par 30 soldats qui se trouvaient dans l'enceinte de l'université depuis 10h30 du soir. Car il faut dire que ces jésuites étaient des universitaires. C'étaient des hommes admirables. Le bataillon Atlacalte, c'est un nom en langue aztèque, j'ai l'impression, encerclait les bâtiments. Il y est demeuré de longues heures après le crime. Les corps ont été retrouvés tendus à terre, leurs cerveaux répandus sur le sol, comme si l'on avait voulu détruire l'intelligence et le savoir de ces jésuites. On a noté que les balles qui ont tué venaient d'où? Elles venaient des États-Unis. Et la conclusion finale du rapport est sans ambiguïté. Tous les indices relevés établissent que les auteurs de l'assassinat des 6 jésuites et des 2 femmes, leur cuisinière et sa fille, sont des militaires appartenant à la force armée. Ce drame, évidemment, a donné lieu au Nicaragua à de nombreuses réactions de solidarité. Le drame étant revenu à San Salvador. J'en rapporte quelques-unes. Il y a 2 homélies prononcées au cours de services religieux, l'une le jour même du drame et l'autre 8 jours après, comme cela se fait en Amérique latine. J'ai aussi en main quelques poèmes, des articles de journaux. Voici un extrait de l'homélie du père Jerez, recteur de l'Université catholique de Managua. À la messe célébrée en mémoire des jésuites assassinés, le jour même de leur mort, le 16 novembre 1989. En paraphrasant ces mots du grand homme qu'a été Monseigneur Romero, qui nous disait un jour, « Si les prêtres ne mouraient pas au Salvador, l'Église irait fort mal parce que le peuple salvadorien se meurt. » Je pourrais dire aujourd'hui que la compagnie de Jésus irait fort mal si elle n'accompagnait pas le peuple centra-américain avec sa mort et avec son sang. Les jésuites assassinés étaient des universitaires. C'est à cela qu'ils avaient consacré leur vie. Ils voulaient former des cadres excellents pour le Salvador, des cadres excellents pour l'Amérique centrale. Tous étaient des hommes d'une qualité humaine et chrétienne extraordinaire. Cette fois, ils nous ont privés des meilleurs cadres que nous avions pour diriger une université. Pourtant, en voyant ce sang répandu, ce sang qui s'unit au sang du peuple salvadorien, nous devons dire « la compagnie de Jésus irait mal si le sang de ses fils ne se mêlait pas au sang des pauvres ». Monseigneur Romero disait aussi qu'au Salvador, l'autorité est comme les serpents, elle pique seulement ceux qui vont les pieds nus. C'est ce qui s'est passé au Salvador. Des dizaines de milliers de morts parmi les pauvres. Et l'Église, en la personne de Romero, des religieuses, des prêtres, des catéchistes, des jésuites assassinés, s'est jointe au sang de ce peuple. Et devant cette tragédie, nous, chrétiens, nous, prêtres, qu'allons-nous dire? Notre réponse est que nous voulons la paix et que nous continuerons à lutter pour la paix. Et nous voulons être soldats de cette paix, disposés à donner notre témoignage comme l'ont donné nos frères au Salvador. C'est vraiment bouleversant quand on dit ça. Voici quelques extraits d'un poème d'un grand poète nicaraguayen, Julio Valle Castillo, qu'il a prononcé le lendemain de la mort de ces jésuites. Si l'aube sur le jardin de la résidence et le premier soleil sur l'herbe fraîche n'avaient pas été aussi sinistres, je pourrais dire qu'ils étaient de nouveau prosternés, le front, le nez, les yeux, la bouche collée au sol, comme le jour de leur ordination. Mais cette fois-ci, comme jamais auparavant, ils se trouvaient au plus haut de la terre, et ils touchaient déjà le ciel. Oh, H-A-U-T-S, là. Oh, inaccessible, les 6 hommes à l'horizontale, abattus et dressés, tombés, et infini. Voici le nom d'un des plus remarquables, ces jésuites, Ignazio Ella Curia. Il avait un rôle très important au sein du dialogue national en vue d'une négociation entre le gouvernement Christiani et le FMNL. Il dénonçait les structures inégalitaires et fascistes du régime salvadorien. Il osait reprocher à l'opposition sa rigidité idéologique. Il attaquait de tous côtés. Au nom de l'Évangile, au nom de Jésus lui-même, lui membre de la Compagnie de Jésus. Au début de novembre, donc quelques jours avant sa mort, après l'attentat qui a coûté la vie à 10 responsables syndicaux, les négociations de paix s'arrêtent. À ce moment-là, le père Ella Curia est à Barcelone, en Espagne. Le chef de l'État, M. Christiani, lui demande d'intervenir pour que les négociations reprennent. Or, comme il est un homme de dialogue, le père Ella Curia n'hésite pas à rentrer à San Salvador, malgré les menaces qui pèsent sur les jésuites. Le 14 janvier 1987, il prononçait d'ailleurs un discours. Théorie et praxis de libération. La conclusion était prophétique. Écoutez ce discours qu'il a prononcé un peu moins d'un an avant sa mort, ou deux ans avant sa mort. L'espérance ne peut pas mourir. Il ne s'agit pas simplement d'une espérance passive qui attend l'intervention divine, mais d'une espérance active qui s'obstine, parfois contre toute espérance humaine, à croire que le Dieu de la vie et de la justice, le Dieu de la grâce et de l'amour, finira par établir son règne parmi les hommes. Mais il ne le fera pas sans la lutte et sans le don jusqu'à la mort d'une vie qui n'est plus enlevée, mais offerte. Et voici un autre jésuite, Juan Ramón Moreno, qui était le président de la conférence des religieux au Nicaragua. Il a dû quitter ce pays, car en 1984, le cardinal Obando, qu'on a vu souvent à la télévision, ne lui a pas renouvelé sa mission, ainsi qu'au père Armando López, à l'époque recteur de l'Université catholique de Managua, au Nicaragua. C'est pour cette raison que ces deux jésuites sont allés au Salvador, pour poursuivre leur travail de théologien au service de la justice. Et au cours d'une retraite qu'il donnait lui aussi en 87, donc deux ans avant sa mort, Juan Ramos Moreno disait « Oui, Jésus est un subversif. Il veut subvertir tout ce qui a été construit pour défendre des intérêts égoïstes. Et Jésus demande que cela change et que les puissants se mettent au service de tous et cessent d'être pouvoir pour se convertir en service, en humble service. » C'est là l'essence du message de Jésus. Mais les pouvoirs résistent. Les pouvoirs voient Jésus comme une menace. Ils accusent Jésus d'être un subversif. Tout au long de l'histoire, l'accusation d'être subversif, de faire de la politique, a servi aux puissants pour retirer sa légitimité à l'interpellation de Dieu qui veut la justice. Et dans le fond, tout ce que fait Jésus, c'est d'être fidèle au projet du Père. Annoncer et rendre présent un Dieu qui se préoccupe pour les petits de la terre, c'est pour cela que les puissants l'accusèrent de faire de la politique. Ils ont aussi accusé Monseigneur Romero de faire de la politique. Ils accusent souvent de faire de la politique les prêtres, les religieuses et les communautés de base qui essaie de prendre la défense des petits en suivant le commandement de Dieu, du Dieu de la vie. Oui, il se mêle de politique, parce qu'il est certain que le Dieu d'amour et le Dieu de vie veut que le monde s'en tienne aux valeurs du règne de Dieu. Et cela, c'est de la politique. C'est la politique voulue par Dieu. Que ces hommes étaient merveilleux. Voici les noms. Je vous ai parlé d'Ignazio Ella Curia. Juan Ramón Moreno Pardo, dont je viens de vous lire le texte. Armando López Quintana. Joaquín López y López, tous les jésuites, Ignacio Martín Baro, et Secundo Montes Mozo, et les deux femmes s'appelaient Elba Julia Ramos, et sa fille très jolie, Célina Marichette Ramos. Invoquons-les, ce sont les saints d'aujourd'hui.